Donc, on se questionne aussi, mais c'est quoi les vraies intentions avec ce bimidom-là quand, quand la richesse, tu pouvais la créer sur place, mais plutôt de la créer sur place, mais tu as déporté des personnes et puis tu les as amenées ailleurs.
Identitaise.
Le podcast qui aborde la complexité
de l'identité antilleuse.
Merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode d'Identitaise. On est enfin de retour après une longue absence, encore plus motivés et déterminés à réfléchir sur les questions identitaires de nos territoires. Et aujourd'hui, on aborde vraiment un très très gros sujet qui a eu de lourdes conséquences sur la démographie et de la Guadeloupe et de la Martinique, mais pas que. C'est le fameux bumidum. Alors le bumidum, qu'est-ce que c'est ? J'ai trouvé une très belle définition dans l'article « Un traitement spécifique des migrations d'outre-mer ». Le bumidum 63-82 et ses ambiguïtés, écrit par Sylvain Patieux dans la revue Politics en 2016, qui dit ceci. Le bumidum, donc pour vous dire Bureau des migrations d'outre-mer, bumidum est créé en 1963 par le gouvernement français à l'instigation de Michel Debré, devenu après sa démission du poste de Premier ministre, député de La Réunion. Il s'agit d'une société d'État au budget autonome placée directement sous la tutelle des différents secrétariats d'État à l'outre-mer. Son objectif assumé est d'encadrer et d'organiser les migrations venues des DOM afin de désamorcer la crise sociale latente dans les DOM, donc notamment les émeutes de 1959 à Fort-de-France, et de s'assurer du maintien des DOM, dernier vestige de l'Empire, dans la République française. Déjà le mot « empire » mérite un peu. La migration d'individus souvent jeunes permet de couper les mouvements indépendantistes de leur base supposée. Le contexte est celui des 30 Glorieuses en métropole, plein emploi, apogée de la société salariale, tandis que la situation des DOM, elle, reste bien plus dégradée. Fast forward, le nombre de migrants passés par le bumidum s'élève en 20 ans, donc entre 1963 et 1982, à près de 200 000, ce qui rapportait à la population des DOM à cette époque, donc au début des années 1960, constitue un chiffre très important, puisque en 1961, il y a 283 000 habitants en Guadeloupe, 292 200 en Martinique, 350 000 à La Réunion. Et en plus de ça, au même moment, le nombre de migrants dits spontanés, donc des gens qui ne passent pas par l'entremise du bumidum, est quasi équivalent. Donc au total, en 20 ans, c'est près de 400 000 personnes venant de Guadeloupe, Martinique et de La Réunion qui s'exilent vers l'Hexagone. La première question que j'ai pour vous ce soir, les amis, c'est quand je parle du bumidum, qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Quels sont les mots ? Quels sont les thèmes ? Quels sont les enjeux qui vous viennent directement ?
Ok, je vais commencer. Déjà, bumidum, moi, je dirais, c'est histoire tabou. Colonisation, décolonisation, identité, rapport centre-périphérie, contexte bien entendu post-colonial, néocolonial. Ouais, c'est ce qui me vient en tête principalement, et puis après on va développer, mais beaucoup de souffrances, de douleurs, d'isolement, de précarité mine de rien aussi. Ouais, c'est ce qui me vient en tête.
Et toi, Jordi?
Moi j'ai noté, ben premièrement ça me fait, quand j'entends bumidum, j'entends vraiment déracinement. Et pour moi c'est un deuxième déracinement. Le premier a eu lieu quand on a pris des personnes, des hommes en Afrique, des hommes et des femmes en Afrique qu'on a déportés aux Antilles. Et puis là, deuxième déportation, donc c'est le premier mot qui me vient, c'était déracinement, incompréhension, en écoutant Michel aussi. Et puis quand je vois les deux mots-là qui me viennent, déracinement, incompréhension, je ne peux pas m'empêcher de penser au niveau psychologique, au traumatisme, mais on ne peut pas non plus négliger aussi que ça a été une période de grande résilience pour le peuple antillais. Donc, ça me fait penser aussi à cette forme de résilience-là.
Pour moi, le Bumidum, c'est complexe. C'est complexe à comprendre parce que c'est une migration, le bureau de migration, hein. C'est une migration, mais en même temps, c'est une migration de personnes qui ne sont pas considérées comme des immigrés, des immigrants, comme on pourrait donner la définition littéraire, puisque on arrive sur un territoire dont on a déjà la nationalité. Mais en même temps, on ne connaît pas ce territoire. Et en même temps, on est français, mais on n'est pas français. Donc c'est des personnes qui arrivent sur un territoire complètement inconnu, dans un climat complètement inconnu, et qui quittent une île donc, qui a son climat, sa géographie, son mode de fonctionnement, pour aller dans un pays européen avec une architecture différente, un environnement différent. Donc je rejoins ton idée, Jordi, sur le déracinement, mais il y a aussi le fait d'être déstabilisé complètement. Mais en même temps, on leur dit que c'est pour leur bien, parce que l'idée, et puis j'aime que dans le résumé dans l'article, ça disait en France, c'était super, c'était les 30 glorieuses, boom économique, tout allait bien. Tandis que dans les DOM, c'était des crises sociales, des crises économiques, voire politiques. Et j'aime que ça soulignait qu'il y avait une volonté aussi de vouloir mettre rapidement un terme aux idées d'indépendantisme, de nationalisme. Parce que je trouve que c'est pas souvent évoqué. Tu sais, on parle du Bumidum pour des questions économiques, pour des questions aussi de développement, entre guillemets, intellectuel, dans le sens où aux Antilles, il n'y avait pas forcément les structures pour des programmes au niveau de l'éducation nationale. On sait que les DOM accusent un retard vis-à-vis de ça quand même. Mais on ne parle pas vraiment aussi qu'il y avait un enjeu sociopolitique, qu'il y avait aussi des émeutes qui commençaient à éclater ici et là, qu'il y avait des mouvements vis-à-vis du nationalisme guadeloupéen, martiniquais, et que le Bumidum a impacté cette espèce de mouvement qui prenait forme. Donc je trouve ça intéressant d'avoir cette information-là, parce que je trouve que la dimension que prend le Bumidum, elle est en fait beaucoup plus large que ce qu'on croit. Puis je trouve ça fou parce que techniquement, sur papier, ça n'a duré que 20 ans, mais c'est comme si c'est 20 années qui ont complètement bouleversé, complètement transformé nos îles. La démographie, évidemment, le développement économique, mais aussi le développement culturel et identitaire. Parce que ça a créé des éclatements, ça a créé des disparités. Puis en fait, ça a créé une espèce de diaspora, finalement. C'est ça qui a créé la diaspora antillaise qu'on retrouve dans l'Hexagone. Puis juste un petit chiffre comme ça que je ressors, mais dans l'article aussi, ça dit qu'en 2010, la moitié des natifs des DOM âgés de 18 à 79 ans ont vécu ou vivent durablement hors de leur département d'origine, soit 594 000 personnes sur un total de 1 million 257 000. C'est énorme. C'est énorme de se dire qu'il y a 13 ans, bah, la moitié des natifs de nos territoires ne vivaient pas sur nos territoires. Enfin, c'est fou quand même.
Donc, à se demander le nombre maintenant.
Ouais.
Qui doit être encore plus élevé que ce qu'il y avait il y a 13 ans.
Mais oui, parce que la démographie continue à décroître en Guadeloupe, en Martinique notamment. Puis en plus, il y a l'enjeu du vieillissement. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais pour en revenir à ce que j'ai dit dans l'introduction vis-à-vis des conséquences sur la démographie, je pense aussi qu'aujourd'hui, on parle tellement des enjeux d'exode, on met en place, et honnêtement, c'est tout à leur honneur, ces associations, de mettre en place des programmes de retour au pays, etc. Je pense à la plateforme Retour au pays, qui est une plateforme qui fait vraiment un travail incroyable vis-à-vis de ça. Mais est-ce que c'est assez ? Puis encore une fois, ça rejoint l'idée de... on évoque un problème, on évoque un enjeu, mais on ne parle pas de l'origine.
Complètement d'accord, complètement d'accord. Et j'ai beaucoup aimé quand tu parlais justement de la question du nationalisme dans la compréhension du Bumidome, parce que je me rappelle quand j'avais écrit mon mémoire de maîtrise sur la départementalisation et le nationalisme en Guadeloupe, j'avais regardé un peu ce qui se passait, quel était le contexte international, et j'avais lu un livre de Julien Mérion, donc qui revenait sur le massacre de 1967, donc qui est considéré comme massacre donc par le rapport de Monsieur Benjamin Stora en 2016. Et le contexte, il est très particulier, puisque on se trouve dans une période donc de décolonisation classique, je dirais. Vous avez beaucoup de territoires africains, asiatiques et caribéens donc qui se dirigent vers l'indépendance. Bien entendu, les Antilles françaises regardent ce qui se passe au niveau de leurs voisins cubains, anglophones, etc. Et bien entendu, justement, quand on a le JAM, on a le GONG, justement, donc qui regardent ce qui se passe à Cuba, donc avec Che Guevara ou encore Fidel Castro. Ça, bien évidemment, ça attire l'attention des autorités françaises. Il y avait à un moment donné la conférence tricontinentale donc, qui justement rassemblait toutes ces forces-là dans le but de permettre une décolonisation complète des territoires. Et donc cette conférence qui a eu en 1966, alors que le Bumidome a lieu 3 ans plus tôt.
Ouais.
Donc dès le départ, je pense que le gouvernement... Je prends la responsabilité de dire ça. Le gouvernement a préparé le terrain pour éviter de perdre une autre colonie. Déjà qu'ils avaient perdu l'Algérie 1 an plus tôt, en 1962, ils se sont dit on ne va pas refaire l'erreur de perdre nos vieilles colonies, à savoir notamment la Guadeloupe et la Martinique. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un travail réflexif à faire, hormis le fait qu'il y a, bien entendu, il y a tout le travail de récolte de témoignages, etc., bien toute la question identitaire derrière. Mais je crois qu'il est important aussi de vraiment s'attarder sur les motivations, les réelles motivations de la création de ce bureau qui, au final, en fait, ça a été vraiment un désastre. Que ça soit sur le plan psychologique, démographique, sociologique, économique pour nos départements, territoires, et qu'on se le dise aussi pour les personnes qui ont été concernées et les générations qui suivent après.
Michel, ce que tu dis aussi, ça me fait penser que... Mais quand on parle du Bumidome et puis quand il y a ces mouvements nationalistes-là qui émergent et puis que ça vient un peu, je prends la responsabilité avec toi. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'on a voulu taire, ces mouvements-là, mais ça va plus loin que ça pour moi, parce que ça va plus loin dans à quel moment on décide à ta place. Parce que ça voudrait dire que sur place, la population demandait quelque chose qui était... C'est vrai qu'il y avait une forte... une forte population, donc il y avait beaucoup de main-d'œuvre, il y avait beaucoup de personnes qui se retrouvaient sans emploi. C'est vrai qu'il y avait une précarité qui était présente, mais due à quoi? On peut se poser la question aussi d'où vient cette précarité-là.
Très bonne question.
Et puis la solution qui a été proposée, ça a été de déporter ces personnes. Alors que on voudrait peut-être, pourquoi ne pas, quand on parle des 30 glorieuses, ça définit quoi? Ça définit un moment où la population, il y a un boom de naissances,
ouais,
et qu'il y a du travail disponible. Mmh. Ce qu'on voit aussi aux Antilles, il y a un boom des naissances, puisqu'ils ont dit que c'est à cause de ça qu'ils nous ont déportés pour nous emmener à l'Hexagone.
Ouais.
Donc il y a un boom des naissances et puis il y a de l'emploi. Je ne sais pas s'il y avait vraiment de l'emploi, mais c'est possible pour un État comme un empire français de créer un emploi sur place. Donc, on se questionne aussi, c'est quoi les vraies intentions avec ce bimidome-là quand la richesse, tu pouvais la créer sur place, plutôt de la créer sur place, tu as déporté des personnes et puis tu les as emmenées ailleurs. Et puis tu les as emmenées ailleurs pour faire quoi? Ça aussi, on se pose question.
C'est très intéressant ce que tu dis, parce que maintenant que tu y penses, je suis en train de réfléchir, en fait, si on retourne, on va dire, allez, 10-20 ans en arrière, en 46, il y a eu la loi de départementalisation.
Ouais. Mmh.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas été appliquée tout de suite.
Mmh.
Il a fallu attendre 9 mois pour avoir l'application sur au niveau des territoires dits outre-mer. Mais il n'empêche que ça n'a pas réglé quoi que ce soit. On se retrouve toujours dans une situation économique moribonde, accès à l'emploi inexistant quasiment. Donc c'est sûr que justement cette acculturation politique économique que par exemple Aimé Césaire et ses confrères voulaient, ça n'a pas eu lieu. Et qu'est-ce qu'on a vu en plus de ça? Une acculturation donc culturelle avec la francité. Donc il est clair qu'après 20 ans après, les choses ne se sont pas améliorées. Certes, il y a un boom en termes de naissance, mais la situation économique, justement la départementalisation était censée régler ces problèmes-là, ça n'a pas été fait. Donc, c'est vrai qu'il y a encore une fois un travail réflexif aussi à revenir sur mais comment on a fait pour en arriver jusque-là. Et je trouve quand même aussi que la départementalisation est un bon point de départ pour comprendre après les conséquences jusqu'en 63.
Ouais, puis il y a l'idée aussi d'affaiblir finalement ces territoires, mais ces colonies. Il y a l'idée d'affaiblir, selon moi, je prends aussi responsabilité, moi aussi je vais le placer comme vous, mais selon moi il y a l'idée vraiment d'affaiblir ces colonies pour qu'il n'y ait pas, on vient de le dire, donc je répète, mais qu'il n'y ait pas ce mouvement de rébellion et ce mouvement de volonté de vouloir s'émanciper finalement, de vouloir se départir de la France. Donc comment est-ce qu'on affaiblit une colonie au-delà de ses ressources, au-delà de l'économie, du matériel? C'est avec son peuple. Donc forcément, si tu déportes le peuple, parce qu'évidemment ils n'allaient pas faire un génocide, ils en avaient déjà fait assez je pense, mais là c'est si j'affaiblis, si je dépeuple finalement les territoires, je garde une mainmise. Il y a aussi cette idée d'affaiblir, de garder une mainmise et finalement en fait, de prendre plus le contrôle, d'assouvir son pouvoir encore une fois. Je pense que tout ça, c'est relié. Tu vois, on analyse chaque chose, chaque aspect, comme si y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, mais tout est lié. Tu vois, c'est en discutant avec vous que je réalise en fait à quel point tout est lié, parce que si t'attaques le peuple, t'attaques l'ensemble du territoire finalement. Sans peuple, il se passe plus rien, quoi. Vas-y.
Et puis, non, mais ça touche à l'identité, ça ouais. touche à comment tu te construis en tant qu'individu.
Mmh.
On s'imagine, on va dire, deux personnes en colocation. Et puis là, tu dis, je me sens suffisamment indépendant pour prendre mon propre logement. Et puis l'autre personne qui dit, ben non, moi je veux que tu restes parce que sinon je vais devoir payer plus. Et puis au final, elle change les serrures, elle t'empêche de sortir, elle t'empêche de faire quoi que ce soit. Donc, et puis admettons que tu arrives à te sortir de ça 10 ans plus tard, de cette colocation toxique. Ben comment tu es en tant qu'individu après avoir vécu tout ça? Donc c'est un peu la même chose. Et puis c'est là que je reviens sur ben, comment on décide à ta place de qui tu es. Mais c'est un peu ça aussi avec, avec le Bumidom. C'est au lieu de, OK, on entend vos revendications, OK, il y a un besoin d'indépendance, il y a un besoin d'autonomie, d'émancipation, on va vous aider à aller vers ce chemin-là. Non. Au lieu de ça, ben, on va aller affaiblir la population et puis on l'affaiblit vraiment. Quand tu prends plus de la moitié des jeunes d'un pays, ben, tu touches clairement à sa puissance. Donc, c'est ce qui a été fait avec le Bumidom. Donc, c'est ça.
Puis le pire, c'est que le Bumidom, en soi, l'entité, elle a duré 20 ans. Tu sais, il y a eu 20 ans d'existence, mais tu sais, il y a eu une continuité, en fait. Donc, même si le Bumidom n'était plus en place, ce système de j'arrive à 18 ans, une fois que j'ai terminé le lycée, que j'ai mon bac, ben je vais en France. Et ça s'est vraiment transmis de génération en génération. Ça a été comme un automatisme qui s'est mis en place jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, tu arrives à 18 ans, il y a par faute de programme ou par faute de place, mais même là, je n'irai même pas sur ce terrain-là, mais bref, par faute de choix, on va dire, ben c'est la France directement la solution. Et le problème, bah, c'est qu'il y a cette fuite, cet exode, mais que les personnes ne rentrent pas. Mmh. Et en plus, il y a comme une vision de la France comme un Eldorado. Et c'est-à-dire que, tu sais, là, on est rendu, bon, il commence à y avoir un travail de déconstruction, Dieu merci, on est là pour ça aussi, c'est pour ça qu'on fait ce podcast, mais il y a comme cette façon de mettre sur un piédestal l'hexagone et de considérer aussi les gens qui ont décidé de partir, bah, eux, ils ont réussi parce qu'ils sont partis. Et les personnes qui, elles, restent sur les territoires sont un peu vues, je généralise là, mais sont un peu vues limite comme, ben, entre guillemets, des ratés, quoi. Comme, t'es pas parti, t'as pas été voir ailleurs, t'es juste resté là, t'es resté dans ton confort. Et ben, en tant qu'immigrée ici au Canada, d'un côté, je peux comprendre parce que partir, c'est forcément s'ouvrir l'esprit, c'est voir ailleurs, c'est rencontrer d'autres gens, c'est avoir une autre vision. Mais en même temps, bah, les personnes qui restent, tout à l'heure, on parlait de résilience, bah, elles s'inscrivent dans cette résilience malgré elles. Il y en a que, bon, voilà, elles sont juste là, elles n'ont pas envie de bouger, puis voilà. Mais je trouve qu'il y en a aussi qui se sont inscrites vraiment dans une idée de résilience et le peu de personnes qui rentrent aussi. Mmh. Parce qu'il y a aussi ces personnes qui partent et qui décident de rentrer malgré tout, même si tout est contre ce retour, ben, elles vont le faire quand même contre vents et marées et elles vont malgré tout réussir à mettre en place des choses pour... Ben, c'est pouvoir continuer à rester sur leurs îles et je trouve aussi que ça c'est pas assez mis en valeur, tu sais, avec les réseaux sociaux tout à l'heure j'ai cité Retour au pays, donc on a de plus en plus de témoignages, là l'entrepreneuriat est de plus en plus mis de l'avant aussi, ce qui est super, mais c'est pareil, est-ce qu'on doit tous rentrer pour entreprendre? Et je suis entrepreneur, hein, j'ai cette mentalité, mais en même temps, est-ce qu'on peut juste rentrer et avoir un poste et s'épanouir et être heureux? Est-ce qu'on doit tous rentrer pour entreprendre? On doit tous avoir des super projets d'entrepreneuriat. Et je trouve qu'il y a aussi cette idée-là de rentrer au pays, lancer votre projet, mais si je veux juste rentrer au pays pour être... auprès de ma famille, pour juste avoir un job dans mon domaine Et c'est tout. Et comme avoir la base, je veux juste un logement, je veux juste un travail, je veux juste pouvoir vivre ma vie comme je la vis, admettons, ici au Canada ou comme je la vis dans l'Hexagone. Mais là, c'est tout un casse-tête de se dire comment je vais trouver un travail, comment ceci, comment cela. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Tout à l'heure, on le disait, c'était il y a 60 ans là, que ça a été créé, le Bumidum. Et ça fait 40 ans que ça n'existe plus. Et pourtant, on est toujours là-dedans. Comme les conséquences, là, elles sont à long terme.
Ah
là.
Oui, complètement.
C'est fou. Puis là, on parle juste... Enfin, là, tout de suite, je parlais juste de l'économie, du système économique, etc. De faire tourner le pays. Mais identitairement parlant, je prends mon expérience personnelle. Je ne sais pas exactement si ma mère est passée par le Bumidum, mais ma mère, elle est venue en France dans ces années-là. Puis... Ma mère n'est jamais rentrée en Martinique. Elle voulait passer sa retraite en Martinique. Elle est malheureusement décédée avant. Mais tu sais, il y a cette idée de... même, elle voulait rentrer pour la retraite, mais pas définitivement. Tu sais, il y a aussi cette idée de je rentre quelques mois. Puis il y a souvent ça.
Oui. Six mois.
On voit beaucoup de personnes qui sont passées par le Bumidum, en tout cas qui ont migré dans l'Hexagone dans ces années-là, qui arrivent à la retraite. C'est leur temps là où ces personnes arrivent à la retraite, mais qui ne se voient pas rentrer définitivement en Martinique ou en Guadeloupe. Et je trouve ça fou parce que le lavage de cerveau est vraiment profond. Et je prends en exemple ma marraine est encore vivante, c'est la première des sœurs là, de mes tantes qui est arrivée en France. Et elle est à la retraite depuis des années, elle vit toute seule à Lyon, petite parenthèse personnelle, je raconte ma vie, mais elle vit toute seule à Lyon. Et je lui dis, je lui ai demandé à plusieurs reprises, pourquoi tu ne rentres pas en Martinique ? On a la maison de mes grands-parents qui a plein de chambres, elle pourrait y être là vraiment. Et elle ne veut pas. Elle me dit, ah non, j'ai mes habitudes en France. C'est fou, hein ?
Ouais.
J'ai mes habitudes, j'ai mes médecins, j'ai mes ceci, mes cela. Et tu sais, elle a un âge évidemment... Je comprends que, voilà, arrivé à un certain âge dans ta vie, t'as vécu, ça fait 50 ans que t'es là, je peux comprendre, mais tu vois les conséquences que ça a sur ton identité au point où tu te dis non, je préfère passer peut-être 3-4 mois là où je suis née, mais rester ici, là où j'ai vécu toute ma vie. Puis quand tu fais la balance, finalement c'est ça, tu sais, elle a vécu peut-être... 20 ans en Martinique, mais là, ça fait plus de 50 ans qu'elle est en France.
Limite, elle se sent dépaysée.
Ouais. C'est fou, hein.
Mais moi, je vais rebondir, mais après, Michel, je vais avoir ton point de vue parce que...
Oui.
Je vais avoir ton point de vue sur ça, mais je vais juste rebondir sur ce que tu dis, Adeline, parce que c'est vraiment intéressant. Et puis, ça rejoint un peu ce que je disais quand je parlais de déracinement. Parce que le déracinement, pour moi, va apporter... une rupture dans la transmission et dans la filiation.
Oui.
Et puis là, on le voit clairement avec l'exemple que tu prends. Je ne me sens plus affilié aux Antilles, je ne me sens plus affilié à ma terre natale, mais j'ai été déraciné. Donc, on voit comment... ce n'est pas rien de quitter un territoire.
Non.
Et puis, comment ça peut justement avoir des impacts sur, ben, sur ton mental, sur ta façon d'évoluer et puis de t'épanouir dans la société. Et puis, ça va toucher ton identité. Et puis, tout ça pour dire ça, et puis comment aussi ça crée des traumatismes aussi, et puis des blessures qui ont du mal à guérir, et puis qui ont du mal à guérir aussi parce qu'il n'y a rien pour les penser. Puisque, comme on a dit au début, c'était tabou, donc comment aussi en parler, comme on a dit aussi, ben, on est encore dans un système néocolonial, et puis il y a encore cette idée que la France est un Eldorado, même s'il y a des déconstructions, mais elle reste encore minime comparée à la construction que la France est un Eldorado.
Ouais.
Donc, on voit comment tout ça, ben, ça participe justement à toucher à l'identité des personnes, et puis ça va très profond dans les blessures psychiques.
Complètement. Moi, je dois vous avouer que quand je regarde déjà d'un point de vue politique, c'est sûr que point de vue politique, sociologique, etc., pour moi, ça, c'est très, très frappant. Chaque fois, je me rappelle quand j'ai commencé à regarder ça d'un peu plus près, j'ai tiqué parce que, encore une fois, ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Donc, il a fallu que j'arrive à Montréal pendant que je préparais ma maîtrise pour découvrir ça. Mais c'est vrai que l'aspect identitaire m'a beaucoup aussi interpellée. Parce que, par exemple, c'est là qu'on a commencé aussi à entendre le fameux, la fameuse expression « négropolitain ».
Ouais.
Donc, il y a vraiment eu aussi une scission entre « bon, je suis antillais quand je suis née aux Antilles. Est-ce que je suis antillais si je suis née en France, mais de parents originaires des Antilles ?» Il y a toute la question de la diaspora donc, qui rentre en jeu aussi. Est-ce qu'on considère la diaspora comme étant aussi faisant partie aussi de cette population antillaise, donc qui contribue aussi à l'épanouissement donc, de l'identité antillaise en soi? Je trouve que c'est tellement complexe. Alors, je sais qu'il y a des auteurs qui ont justement travaillé sur les questions de diaspora. Je pense notamment aux travaux d'Audrey Célestine. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, justement, de la place de la diaspora dans notre communauté. Et que, mine de rien aussi, malgré cette situation donc, qui a duré pendant 20 ans, que, ben, y a tout un travail qui a été fait justement pour maintenir les liens, même si c'est vrai que voilà, il y a la question du territoire donc, qui est à prendre en considération, mais qu'elle contribue aussi à maintenir et à perpétuer cette identité aux Antilles, enfin aux Antilles et à l'Hexagone et même ailleurs dans le monde. Mais quand j'analyse aussi d'un point de vue des rapports de pouvoir entre la France et ses anciennes colonies, entre guillemets. Pour moi, le bumidum, c'est tout comme la départementalisation, une politique néocoloniale.
Ouais.
Pour moi, c'est une traduction complète d'une politique néocoloniale. On me dira, oui, mais c'était pour, voilà, en étant en perte de main d'œuvre, il fallait une main d'œuvre, etc. Sauf qu'on a vendu du rêve à ces gens-là.
Oui.
Totalement.
Soit disant, oui, vous allez occuper des postes de fonctionnaires dans les plus hautes institutions françaises, etc. Les gens se sont retrouvés à être femmes de ménage, à travailler à la RATP, etc.
À l'hôpital.
Ouais, donc, on trouve beaucoup, notamment d'infirmières originaires des Antilles dans les hôpitaux de France. On ne le dit pas assez, mais c'est très vrai. Oui. Et c'est notamment dû aussi au bumidum. Mm-hmm. Les gens se sont trouvés à avoir des travails, des situations où c'était une situation limite de paupérisation, en fait.
Mm-hmm.
Au point où certains, malheureusement, se sont ôté la vie.
Mm-hmm.
Donc, ça revient justement à l'aspect psychologique du bumidum. Donc, moi, je me dis que, qu'on le veuille ou non, les traumas sont toujours présents. Ça fait 60 ans que ça existait. Mais les conséquences seront pour déjà les personnes qui sont concernées par cela, mais aussi les générations suivantes. Et même nous qui n'avons pas forcément participé, contribué, je dirais, mais avoir été victime de cette politique-là, le fait justement de ne pas avoir eu connaissance dès le départ, notamment au niveau des programmes scolaires, là aussi, c'est un impact aussi sur notre identité.
Hein. Mm-hmm. Ouais.
Encore une fois. Hein.
Puis, sur le fait de vendre du rêve, ça me fait penser que la plupart, encore une fois, je généralise, mais je prends le cas très personnel, mais très concret de ma mère. Ma mère, elle était issue d'une famille de 11 enfants. Donc forcément, c'était dans une grande maison, à air ouverte. Jordi connaît la maison. Mais je veux dire, tu sais, c'est à air ouverte, t'as le jardin, t'as la mer à côté, etc. Puis, arrivée en France, ma mère, elle a toujours vécu en appartement. Elle a toujours vécu en HLM. Donc, tu sais, il y a aussi cette idée où tu quittes un lieu où la nature est très présente. Tu vis dehors et le fait de vivre dehors, bah, ça fait que t'es ancré dans ta communauté aussi, tu sais, on va pas se mentir, les communes aux Antilles, tout le monde se connaît, nous à Sainte-Anne c'est une petite commune en Martinique, toutes les familles se connaissent, et là on est complètement éparpillés pour la plupart en Île-de-France.
Mmh.
mais on est éparpillé et surtout on est parqué dans des zones d'HLM, les cités, etc. Et on se retrouve avec cette population issue de l'immigration aussi. Mais on n'est pas des immigrés, donc je reviens tout à l'heure à ce que je disais, on est des migrants, mais on n'est pas des immigrés. Et il y a aussi, je trouve, pas mal de préjugés qui sont mis en place. Évidemment, ça concerne toutes les personnes issues de l'immigration, mais par rapport aux Antillais, personnes venant de Martinique, de Guadeloupe. Tout à l'heure, on parlait des hôpitaux, mais il y a aussi ces préjugés qui commencent à naître que les Antillais sont des fainéants. On travaille que dans la fonction publique, on travaille à l'époque, ça s'appelait les PTT à la poste, on est...
à l'accueil des hôpitaux.
À l'accueil genre, des hôpitaux.
On reçoit mal les gens à l'accueil.
Exactement, on reçoit mal. Tu sais, je suis en train de parler de ça, puis j'ai juste le sketch des Inconnus dans la tête.
Exactement.
Tu vois ce que je veux dire, Marie-Thérèse, très mal fait, tu vois. Mais tu vois, c'est ça, je trouve, comme il y a des préjugés qui ont commencé à naître vis-à-vis de ça. Puis, il y a eu justement cette mauvaise image, cette image caricaturale qui a commencé à prendre forme, qui a eu un impact aussi sur l'identité de ces personnes-là, parce que là, tu n'as plus envie de t'identifier en tant que Antillais. Tout à l'heure, on parlait des négropolitains, pardon. Bah, tu sais, il y a aussi cette idée de vouloir un peu t'assimiler.
Exactement.
Et donc d'être plus français que français.
Exactement.
De commencer à broder, comme on dit.
Voilà.
De vouloir... oui, je fais bien le broder. mais de vouloir perdre ton accent, de avoir cette volonté de ne plus vouloir parler créole, de ne pas transmettre le créole à tes enfants.
T'habiller d'une certaine manière.
C'est ça.
Mouvoir d'une certaine façon.
Exactement. Donc, tu sais, il y a aussi ce truc où t'as envie de t'assimiler à la culture française, au parler français. Donc, t'adoptes aussi les us et coutumes, t'adoptes les façons de faire à la française, mais voilà, tu viens de Martinique, de Guadeloupe. Donc, tu sais, il y a comme cette complexité qui a commencé à naître et qui a donné des situations où les enfants de ces personnes-là, après, elles ne parlent pas un mot de créole, en
fait. Absolument.
Elles ne comprennent pas, elles ne parlent pas. Moi, je me sens très chanceuse de comprendre le créole et d'avoir aussi une relation avec la Martinique, parce que ma mère, elle a tenu à ce que je connaisse ma famille en Martinique, que je connaisse mon territoire, que je sache où elle est née, que tu sais, son environnement dans lequel elle a grandi. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas eu cette chance. Il y a plein de gens qui sont martiniquais, guadeloupéens sur papier seulement.
Exactement.
Et ça c'est grave aussi.
C'est vraiment... Mais c'est très grave, moi, je trouve, également. Et puis, je voudrais revenir sur deux choses que tu as dites. Tu as dit, mais il y a tellement de bonnes choses qui ont été dites. J'ai noté aussi des choses du côté de Michel. Mais c'est sur les préjugés. Ça, c'est un premier retour, les préjugés. Et puis, comment, quand on est dans un rapport de dominant-dominé, ou bien quand on est une minorité, souvent, ces préjugés-là, on les intègre. Et puis, c'est là, comme tu dis, que ça finit par toucher à notre identité. Et puis, il y a deux façons de l'intégrer. Soit je corresponds totalement aux préjugés qu'on a sur moi. Donc, je vais tout le temps être en retard, je vais être fainéant. Ou justement, je vais m'opposer à ce préjugé-là. Mais c'est aussi une façon de l'intégrer. Et puis, comme tu vois, j'intègre le préjugé comme quoi je suis toujours en retard ou je suis lent. Et puis, je vais aller plus vite, je vais parler vite, je vais faire des choses comme ça. Mais c'est une façon d'intégrer aussi le préjugé. Et puis, on voit comment c'est difficile après de se construire une identité par rapport à ça. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et puis, c'est une chose que tu as dite là, pour moi, tellement importante, c'est quand tu as parlé des familles et puis quand tu as parlé de ta mère qui vivait dans un environnement particulier. Et puis, Mais quand tu as dit, mais Jordi sait, mais oui, je sais, parce que nos familles étaient proches. Et puis, c'est cette proximité-là avec aussi la communauté qu'on a perdue
ouais.
en étant dans des architectures comme les HLM où ben, les personnes sont fermées, elles ne connaissent pas la personne qui est en dessous, elles ne connaissent pas la personne qui est au-dessus, elles ne connaissent même pas la personne qui est au dixième en dessous d'elles. Donc, on voit comment les liens sociaux sont coupés alors que ces personnes-là, c'est comme ça qu'elles ont grandi. Donc, comment on retire vraiment une grosse partie de l'identité des personnes en faisant ce mouvement-là? Et puis comment c'est important de ta communauté, tu l'as perdue. Et puis comment ça joue après sur ton psychisme, ça joue sur ton mental, ça joue sur des générations futures. Parce que quand on dit qu'il faut un village pour élever un enfant, ben c'est ça aussi.
Ouais, mm-hmm.
Pour élever un enfant, élever une personne, qu'une personne puisse s'épanouir dans la vie, mais il lui faut aussi sa communauté.
Mm-hmm. Tout à fait, tout à fait. Franchement, c'est hyper intéressant parce que ça me fait penser beaucoup, vous savez, durant aussi cette période-là, il y a eu beaucoup d'intellectuels qui se sont soulevés pour justement revenir à cette identité précoloniale. Donc c'est là où on a vu apparaître les notions de négritude, de créolisation, de créolité, etc. Et en fait, je me rends compte au fil de nos discussions que la génération actuelle, donc, qui fait ce travail en fait, donc, de valorisation, de mise en lumière donc, de cette période sombre des Antilles françaises et de la France, ils cherchent eux-mêmes à renouer avec cette, comme j'ai pu voir dans certains articles, à leur créolité.
Mmh.
Le fait de savoir qu'ils ont des identités multiples, de connaître un peu quelle était justement comment on vit en Guadeloupe, en Martinique, les us et coutumes, donc ils font partie de nos traditions, de notre identité, de comment arriver à manier à la fois cette identité française donc, qu'ils ont acquise en naissant sur le territoire, mais aussi à arriver à soit valoriser une identité créole ou une identité nègre, etc., etc. Donc après, ça dépend de tout un chacun. Mais c'est sûr que, mine de rien, c'est encore une fois, hein, je reviens encore à la prise en considération de la diaspora. C'est important de s'attarder, mine de rien, sur cette communauté, je dirais, qui s'est formée dans des circonstances relativement troublantes, mais qui a aussi sa part dans cette construction identitaire, que ça soit en Guadeloupe, en Martinique ou ailleurs. Parce qu'il est vrai que, qu'on se le dise, notre société antillaise, elle est de base, c'est une société créole. Donc avec les questions migratoires, etc., la colonisation et tout, on ne peut pas nier cela. C'est vrai qu'il y a une part de la culture française dans notre construction identitaire, mais qu'on se le dise, le Bumidom est vraiment venu casser cette volonté de créer une identité subalterne, une identité propre à la Guadeloupe et à la Martinique.
Mmh.
C'est ça qui m'a frappé en fait, rien que déjà le fait d'étudier la départementalisation, d'avoir justement une perspective décoloniale, de voir mais comment justement cette départementalisation a eu un impact sur notre identité culturelle et politique. Et le Bumidom vient renforcer ma réflexion dans le sens que effectivement tout a été fait pour qu'on ne puisse pas savoir qui on est.
Mm-hmm.
Vous parliez du fait que maintenant, aujourd'hui, on se dit qu'il faut absolument qu'on parte en France pour pouvoir réussir. Je ne me vois pas finalement retourner aux Antilles. On a des us et coutumes qui, voilà, que ça ne va pas. Je n'ai pas le même train de vie que quand je vis en France ou même, par exemple, à Montréal. Hein.
Mm-hmm.
On se dit, bon, là, par exemple, je prends mon cas. J'ai deux masters. Je vais avoir un doctorat. Mais qu'est-ce que je vais faire en Guadeloupe?
Mm-hmm.
Je ne vais pas trouver un travail à la hauteur de mes efforts, etc. Même chose pour vous. Pourtant, je pense que tout le travail, justement, le petit scénario qui a été mis en place, mine de rien, au fil du temps, on se dit que l'Eldorado se trouve en France ou à l'étranger, il n'y a rien à faire chez nous, ça ne sert à rien de continuer, tout est bouché. Malheureusement, je me dis qu'à un moment donné, ça risque de continuer pendant très longtemps. Mm-hmm. Si justement on ne fait pas ce travail de déconstruction, donc déjà, rien que le fait de parler du bumidum, ça nous vient à remonter, à comprendre un peu la situation. Mais si on ne fait pas ce travail de déconstruction pour comprendre que, en fait, tout a été fait pour qu'on ne puisse pas se connaître, qu'on ne puisse pas savoir d'où est-ce qu'on vient, c'est sûr qu'on va encore avoir ce type de discours où on se dit que l'herbe est plus verte ailleurs, alors qu'il y a de quoi faire chez nous.
Restez à l'affût. Nous continuons la conversation et la réflexion dans une deuxième partie. Vous venez d'écouter Identitèse, un concept pensé, recherché et réalisé par Michel Martineau, Jordi Bellance et Adeline Louison. Suivez-nous sur Instagram, @identitèse, et sur notre site internet, identitèse.com.